et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Il y a de nombreux spécialistes dans la salle qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais les plus concernés par les enjeux écologiques, c'est nous. Les générations futures dont on parlait au sommet de la Terre à Rio en 1992, nous en sommes les premiers représentants. Notre génération sera impactée par les conséquences du réchauffement climatique.
Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
J'ai signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique. La plupart d'entre nous n'avions jamais suivi d'enseignement spécifique sur les enjeux climatiques et environnementaux.
On a été 30 000 étudiants à signer le manifeste.
Ce rapport Jouzel nous incite fortement à ce qu'en premier cycle, et en particulier à Bac+2, tous les étudiants aient eu une formation pour avoir cette prise de conscience, mais aussi pour leur donner les clés de comment agir dans le futur.
Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on s'intéresse aux questions de formation aux enjeux du réchauffement climatique. Alors c'est un vaste sujet, on s'intéressera en particulier aux questions de formation dans l'enseignement supérieur. Nous aurons le plaisir de recevoir en deuxième partie d'émission Luc Abadi, qui a été rapporteur d'une mission qui avait été confiée à Jean Jouzel sur cette question. Mais pour commencer, pour décrypter le sujet comme d'habitude, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sylvestre Huette, journaliste scientifique, et Gilles Ramchen, paléoclimatologue. Bonjour Sylvestre et Gilles.
Bonjour.
Alors avec Luc Abadi, on va parler spécifiquement de la formation dans l'enseignement supérieur, hein, puisque c'était le sujet de cette mission et du rapport. Mais je voudrais qu'on insiste dans cet épisode sur l'importance de la formation et du partage d'informations sur le changement climatique et sur ses conséquences pour l'ensemble des citoyens finalement et pas seulement des étudiants du supérieur, puisque c'est bien un sujet qui touche tout le monde. Et je voudrais saluer aussi les très nombreuses initiatives qui existent aujourd'hui et qui se sont développées au cours des dernières années, notamment tous les bénévoles de la fresque du climat, les autres types de fresques comme la fresque de la biodiversité. Il y a aussi beaucoup de MOOC ou de cours en ligne, notamment de l'UVED, d'Avenir climatique. Il y a des guides pour se former, notamment développés par le REFED. Il y a des tests de connaissances sur les objectifs de développement durable de Sulites, il y a la Carbone 4 Academy, il y a encore bien d'autres initiatives. On pourra malheureusement pas toutes les citer tout de suite, mais on avait fait un entretien avec Bonpot notamment où on parlait des ressources en ligne pour pouvoir avoir des informations fiables et crédibles sur la question du réchauffement climatique, ce qui de nos jours est important. Je ferme là cette parenthèse, mais n'hésitez vraiment pas à nous faire part de vos propres initiatives sur les réseaux sociaux, on essaiera de relayer autant que possible. Maintenant, j'en viens à mes questions pour vous, Sylvestre et Gilles, en commençant par un domaine particulier qui est plus important, peut-être encore plus que tous les autres, pour l'information et le partage de l'information, c'est celui des médias. Et il y a eu, là aussi, ces dernières années, des initiatives, notamment à Radio France, à la suite de la publication du manifeste Le Tournant, qui a lancé un plan climat il y a 2 ans. France Télévisions a ajouté un journal météo traditionnel au journal Météo et Climat. Enfin bon, on sent qu'il se passe des choses. Alors Sylvestre, toi, tu suis ce sujet depuis longtemps, tu participes au Master Climat et Médias dont on avait parlé avec Gilles, que vous avez contribué à créer il y a quelques années. Alors, est-ce que tu te sens moins seul? Est-ce que ça avance dans les médias? Et où est-ce qu'on en est?
Alors, ces initiatives de formation pour journalistes proviennent d'un coup de gueule de journalistes spécialisés en sciences et en environnement devant le traitement indigne et incompétent que des rédactions en chef, notamment pour les chaînes de télévision, imposaient pour des événements extrêmes comme les canicules ou les sécheresses. Cette protestation collective a obtenu un beau succès avec des chartes, des déclarations, des réunions de travail et puis des opérations de sensibilisation en direction des rédactions et notamment des rédactions en chef, des responsables qui prennent les décisions éditoriales. Mais l'expérience du Master 2 Climat et Médias montre qu'il faut aller bien plus loin que ces opérations de sensibilisation. Finalement, un journaliste qui suit ce master sur 1 an ou 2 s'immerge dans plusieurs dizaines d'heures de cours. Il travaille souvent le soir et le week-end parce qu'il fait ça en plus de son métier. Il rend des copies de réflexions. Il a un contact direct avec de nombreux chercheurs spécialistes des différents aspects du changement climatique. Il se frotte à la production scientifique, mais aussi à des réflexions sociopolitiques, de juristes aussi, sur le défi du changement climatique dans toutes ses dimensions. Et en fait, c'est là une démonstration qu'il faut prendre très au sérieux le besoin de formation de tous les journalistes, et pas seulement ceux des services sciences et environnement, mais aussi ceux des services économie, politique, culture, consommation, afin qu'ils puissent traiter avec compétence les sujets de leur rubrique qui sont en rapport direct avec la menace et les solutions du changement climatique. Et ces sujets sont de plus en plus nombreux.
Merci Sylvestre. On reviendra sur ces modèles du coup de gueule qui permet de faire advenir des changements, puisque c'est quand même aussi un peu ce qui s'est passé dans l'enseignement supérieur avec des mobilisations très fortes d'étudiants et d'étudiantes. Mais pour l'instant, je voudrais me tourner vers toi Gilles pour revenir sur cette question de la formation, en particulier dans le secteur des médias, et du rôle que peuvent jouer les scientifiques spécialistes du climat pour cela, en particulier du coup dans le Master 2. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez réussi à collaborer entre scientifiques et journalistes pour mettre en place cette formation, et qu'est-ce que vous en avez appris finalement qui peut être utile maintenant que se développe de plus en plus de formations dans différents secteurs?
Oui, alors ça je peux vous expliquer. En fait, pendant la COP21, on a fait plein de conférences partout. On en a fait une à l'École supérieure de journalisme, où il y avait du monde dans la salle, c'était des conférences assez générales. Et à la fin, quand l'amphi s'est vidé, les journalistes de l'ESJ...
ESJ, c'est École supérieure de journalisme.
...sont descendus, et de façon assez prégnante, hein, ils nous ont dit, mais si c'est vrai ce que vous dites, si... le climat va jouer dans tous les secteurs, l'économie, l'énergie, la justice, la société. Eh ben, il faut peut-être que vous vous souciez de former des journalistes à la complexité de ce monde-là. Et cette demande, elle était vraiment très forte. Et donc, il y avait à ce moment-là quelqu'un à l'École supérieure de journalisme qui s'appelait Yves Renard, qui nous a aidés à fabriquer, avec Sylvestre et d'autres, une formation qui avait deux originalités. Elle était co-construite, c'est-à-dire que chaque unité d'enseignement était co-construite avec un expert et un journaliste. Et la deuxième originalité, c'est qu'effectivement, elle couvrait l'ensemble des domaines, c'est-à-dire évidemment le climat, mais aussi le vivant, l'énergie, l'économie. Et comme Sylvestre l'a noté, pour les journalistes qui sont en fonction et qui suivent ce M2, qui est assez lourd et qui sont déjà en poste, ben oui, il faut qu'ils bossent le soir et le week-end. Pour ceux qui sont en formation initiale, c'est un M2 normal. Et donc, cette expérience, hein, parce que ça a vraiment été une expérience, elle s'est faite très largement sur le bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs prenaient sur leur temps. Et par contre, il fallait qu'on paye les journalistes. Parce que ça, les journalistes, ils ne sont pas payés par ailleurs. Hein. Donc, on a dû tout inventer. Ça a été extrêmement dur. Il a fallu récupérer de l'argent, pas beaucoup d'argent, mais de l'argent pour fonctionner, faire des choses de belle qualité, avoir les bons intervenants, les bons journalistes. Tout ça a demandé énormément d'énergie. Et finalement, aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien. On a 50 étudiants inscrits dans un M2, ce qui est complètement hors norme, avec peut-être 150 personnes qui demandent. Et ce qui a surtout beaucoup changé, c'est que maintenant, le bouche-à-oreille aidant, on a beaucoup de journalistes, alors qu'au début, on avait des étudiants. Donc, alors c'est une goutte d'eau hein, par rapport aux journalistes formés chaque année, évidemment, 50 étudiants de M2. Mais quand même, on a comme ça des journalistes qui sont maintenant en poste avec une éducation au changement climatique hyper ancrée, avec des compétences très, très larges.
D'accord. Et avant d'en revenir à l'enseignement supérieur, je voudrais ton retour sur un autre secteur où les formations au changement climatique se sont accélérées. Il y a eu une annonce d'un grand plan en 2022 pour former l'ensemble des agents de la fonction publique, donc plus de 5,5 millions d'agents si je ne me trompe pas, aux enjeux du réchauffement climatique, de la biodiversité et l'ensemble de ces problèmes complexes dont on parlait tout à l'heure. Là, ça s'est accéléré puisqu'en 2024, il y avait l'ambition de former les cadres de la fonction publique d'État. Il y a eu un appel justement aux scientifiques pour donner un coup de main. Donc toi, tu as fait partie de ceux qui ont répondu à cet appel. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment les scientifiques peuvent aider à former les cadres de la fonction publique?
Moi, personnellement, j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que, échaudé par mon expérience de bénévolat de 7 ans sur les journalistes, quand j'ai vu que l'idée était de former 5 700 000 fonctionnaires à terme et que je voyais se pointer le fait que ce serait sur le bénévolat, première chose que j'ai fait, c'est de dire que ça, c'était pas juste admissible. Il fallait des formations continues et différenciées. Il fallait mettre des moyens et des postes. Donc ça, c'est très important pour moi d'avoir, comme l'avait dit Sylvestre, en fait une formation à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Donc j'ai aussi ce désir profond d'être utile. Donc j'ai aussi participé, je me suis inscrit pour la formation d'abord cette année de 24 000 hauts fonctionnaires. Donc ces 24 000 hauts fonctionnaires ont droit à 3 conférences, dont une sur le climat à deux voix. Donc, j'ai été au ministère de la fonction publique faire une conférence à deux voix. Moi, je l'ai fait avec Jean-Paul van der Linden, qui travaille plutôt sur les impacts sur les communautés humaines pour que les fonctionnaires qui soient là aient une vision assez large. Et donc, voilà, le problème de ça, c'est que il n'y a pas les moyens en face. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires vont suivre 3 conférences. Ils vont suivre aussi une formation du type atelier d'automne ou de la fresque du climat ou la fresque de la biodiversité. Enfin, un atelier. Et puis, une visite sur site. En tout cas, c'est ça qu'ils vont avoir, ce qui est beaucoup, beaucoup mieux que rien. Mais ça ne permet pas d'arriver au but. Le but, c'est quoi? Eh ben, c'est que les fonctionnaires qui sont aujourd'hui en poste, ils puissent avoir la culture qui leur permette au mieux de prendre des décisions. Et donc, Pour ce faire, il faut une formation qui soit un peu pointue et qui soit surtout continue, parce qu'il y a deux aspects très importants. D'abord, c'est que c'est des problèmes complexes, c'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes climatiques qui amènent à des solutions qui, si tu fais pas attention à la biodiversité et aux ressources, ne sont pas les bonnes. Donc, il y a la complexité là-dedans. Et puis, il y a aussi une deuxième notion qui est très importante, c'est le fait qu'on apprend en marchant, c'est-à-dire que la recherche, elle évolue, la recherche pas simplement fondamentale, mais sur l'adaptation, l'impact, elle évolue. Donc, il est important de former ces gens en continu sur toute leur vie. Parce que les clés qu'on a aujourd'hui ne seront pas peut-être celles qu'on aura dans 10 ans. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte. Alors évidemment, c'est énormément, c'est immensément mieux que rien, mais ce n'est pas à la hauteur des défis d'aujourd'hui.
Alors si on en revient maintenant à l'enseignement supérieur et à la formation initiale, on parlera peut-être de formation continue à nouveau tout à l'heure avec Lucas Badi. Une des recommandations du rapport, c'était de se fixer l'objectif de former 100% des étudiants de niveau Bac plus 2, quel que soit leur cursus, d'ici 5 ans, aux enjeux de la transition écologique. Donc du coup, les universités s'organisent pour mettre en place ces formations. Toi, tu as participé à la mise en place de ce programme pour l'Université Paris-Saclay?
Alors, concrètement, moi, j'ai participé à l'élaboration d'un module qui a été mis en place par Paris-Saclay suite au rapport Jouzel. J'insiste sur ce fait, c'est vraiment une avancée très, très importante de permettre à tous les étudiants, qu'ils soient en éco, en art, d'avoir une formation validante sur ce que c'est que le climat, la biodiversité, les ressources. Donc, ça a été assez rapidement décliné à Paris-Saclay. Il y a eu un très beau projet qui s'est mis en route, très généraliste. Et moi, j'ai participé à un des volets qui est le volet climat. Et cette formation, elle a été mise en place il y a déjà quelques années. Et donc, effectivement, je pense que ça a été très utile et que ça a été plutôt une réussite. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres universités où il y a moins puisé dans le vivier et où ça a été plus difficile. Donc, il y a une certaine, un peu là, sans doute, inégalité des chances auxquelles il faut faire attention.
Oui, puisqu'il s'agit pas là d'une formation nationale qui serait la même pour l'ensemble des cursus dans l'ensemble des universités. C'est vraiment un projet que chaque université doit développer et du coup, évidemment, en fonction des moyens disponibles et puis aussi des compétences disponibles, parce que c'est pas forcément évident de savoir comment enseigner ces enjeux de la transition écologique, comment le faire de façon pratique, de façon pluridisciplinaire. On y reviendra justement avec Lucas Badi. Alors, il faut vraiment qu'on passe à l'entretien, mais je vous donne peut-être quelques mots de conclusion chacun en moins d'une minute si possible sur ce rapport Jouzel-Abadi.
Ouais, ce rapport Jouzel et Abadi donc, et d'autres aussi, hein, qui visait en fait à mettre en place pour tous les étudiants des formations sur le changement climatique, ça a été quand même une graine très très importante, parce que c'est ça qui a obligé les universités à bouger. Alors, avec très peu de moyens, certainement, mais quand même, ça a été vraiment une étape essentielle, parce qu'à partir de cette étape-là, on pouvait accéder aux étudiants, leur donner un minimum de formation et mettre quand même une graine qui allait germer forcément, soit dans leur choix de master, soit dans leur choix de vie, soit dans leur métier ensuite, pour continuer à s'intéresser à ces questions-là. Donc, je pense que ça a été quand même tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, ce rapport a eu un retentissement important, puisque finalement, il a fallu que dans chaque université, les présidents se mettent à se colter au fait que voilà, ils étaient devant l'obligation de fournir une formation sur ces questions qui sont quand même essentielles.
Merci Gilles et Sylvestre pour le mot de la fin.
Finalement, des opérations de sensibilisation par des formations de quelques heures qui sont les dernières décisions correspondent à ce qu'il aurait fallu faire dans les années 90, après le premier rapport du GIEC. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est des transformations profondes de toutes les formations supérieures, voire des formations techniques, notamment, de sorte de former des gens capables d'accompagner, de mettre en œuvre les transformations profondes que nous devons réaliser dans tous les domaines de l'économie, de l'organisation de la société, des transports, du logement, des modes de production, d'agriculture, pour atteindre les objectifs climatiques, qui ne seront pas atteints avec des transformations cosmétiques, mais qui exigent des transformations véritablement profondes de l'ensemble du fonctionnement de la société. Donc oui, c'est très bien d'avoir fait ces sensibilisations, ces premières opérations de formation pour les fonctionnaires ou pour l'ensemble des étudiants, mais c'est une première marche qui aurait dû être franchi il y a très longtemps, et maintenant il faut s'attaquer aux marches suivantes.
Merci Sylvestre pour ces mots de conclusion, et on continue maintenant la discussion avec notre invité. Lucas Badi, bonjour, merci d'être avec nous pour cet épisode du Climat en question.
Bonjour Céline, content d'être avec vous.
Alors tu as été le rapporteur d'un groupe de travail présidé par Jean Jouzel, qu'on a eu le plaisir de recevoir pour d'autres épisodes, et qui s'appelle, je cite, « Enseigner la transition écologique dans le supérieur ». Alors je suis très heureuse de faire cet épisode avec toi aujourd'hui pour plusieurs raisons. Alors d'abord, et c'est pour ça que je me permets de te tutoyer, c'est qu'on se connaît depuis au moins une quinzaine d'années. Parce que moi, quand j'ai fait mes propres études supérieures, j'ai eu la chance de t'avoir comme professeur en fait dans un cursus justement très pluridisciplinaire. Et on en reparlera tout à l'heure, mais à l'époque c'était assez nouveau de s'intéresser, d'étudier ces sujets-là de façon pluridisciplinaire. Et je dois dire que depuis, à force d'en parler, à force de professeurs comme toi ou d'autres qui se sont mobilisés pour créer ces cursus, et puis aussi grâce aux étudiants hein, qui se sont quand même vraiment organisés, qui ont poussé pour avoir de plus en plus de formations. Il y a eu aussi des initiatives très importantes comme le manifeste étudiant pour un réveil écologique. On a entendu quelques extraits aussi de ces étudiants et étudiantes qui souhaitent bifurquer à la fin de leurs études. Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'on avance, même s'il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. Donc voilà pour quelques mots d'introduction, mais maintenant rentrons dans le vif du sujet sur ce groupe de travail. Est-ce que tu peux nous décrire déjà en quoi ça a consisté, comment il a commencé et puis quelles ont été ses conclusions?
Alors, ce groupe de travail, en fait, il a démarré sur une lettre qu'a envoyée la ministre d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de l'époque. Donc, ça, c'était en février 2020. Donc, Frédéric Vidal était ministre à l'époque et elle envoie un courrier à Jean Jouzel en lui demandant s'il est d'accord pour prendre la présidence d'un groupe de travail qui a, je dis ça texto, hein, qui a pour objectif d'examiner la question de la sensibilisation et de la formation de l'ensemble des étudiants de notre système d'enseignement supérieur aux grands enjeux de la transition écologique. Donc ce groupe de travail, c'était une vingtaine de personnes qui représentaient la Conférence des grandes écoles, France Université, des organisations étudiantes, des syndicats étudiants, des organisations d'enseignants et quelques personnes qui étaient là pour leurs compétences particulières. Et donc ce groupe, il a travaillé en séance plénière ou par groupe de travail pour produire finalement deux rapports. Il y a eu deux rapports dans ce groupe Jouzel. Il y a eu un premier rapport donc, qui a cadré un petit peu la question de l'enseignement de la transition, de la formation de la transition. Ça, on l'a rendu en juillet 2020. Et un second rapport, donc beaucoup plus détaillé, qui a été rendu en février 2022. Alors, ce qui était intéressant dans ce groupe de travail, c'était les termes mêmes employés par la ministre Frédérique Vidal à l'époque, puisqu'elle nous demandait de regarder la question de la sensibilisation, mais aussi de la formation. Formation, dans le milieu de l'enseignement supérieur, ça veut dire que c'est diplômant, ça fait partie du diplôme, c'est reconnu. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Il ne s'agit pas de faire une simple sensibilisation, une simple initiation, il s'agit de rentrer ça dans quelque chose qui conduit à une compétence reconnue par un diplôme. Ensuite, il y avait l'ensemble des étudiants. Donc ça veut dire que si on fait de la physique nucléaire ou de la philosophie du Moyen-Âge, même topo, on doit avoir une formation. Et puis il y a l'expression « transition écologique ». Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que la définition de la transition soit stabilisée aujourd'hui. Elle ne l'était sans doute pas à l'époque. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dans la tête de Frédérique Vidal quand elle a employé cette expression. Mais pour moi, c'était une expression, pour moi et pour les autres d'ailleurs, hein, ça a été une expression très forte. C'est-à-dire, transition écologique, ça veut dire quand même revenir à des conditions de viabilité sur la planète Terre. Donc, on peut faire difficilement plus englobant, etc. Donc ces termes-là, formation, ensemble des étudiants, transition écologique, c'était quand même très motivant. Et donc on a travaillé, on était tous très très motivés pour travailler dans ce domaine. Et donc les conclusions, il y a eu la conclusion principale, on va dire, ça a été la recommandation de faire en sorte que tous les étudiants, et ça c'était finalement la lettre de Frédéric Vidal, tous les étudiants aient droit à une formation. C'est-à-dire, dans le système d'enseignement supérieur, les premiers qui sortent, c'est à Bac plus 2. Donc on a dit, il faut prioriser le niveau Bac plus 2, et donc on a proposé qu'à Bac plus 2, dans les universités généralistes, c'est au niveau licence, c'est ça que ça veut dire, tout le monde ait une formation socle sur la transition écologique. Et donc c'est une des rares recommandations qu'on a faites, on a été un peu prescriptif pour le coup, on a dit, ça devrait être 3 crédits. L'équivalent de 3 crédits, qui reste quand même un enjeu modeste. 3 crédits sur les 180 des 3 années du cycle de licence, par exemple, c'est quand même pas un effort dément. Mais ça veut dire 3 crédits, si on prend les choses au pied de la lettre, ça veut dire 3 crédits à la place d'autre chose. Il s'agit de vraiment insérer ça dans le programme. Et puis, on a proposé aussi qu'on puisse rajouter 3 crédits dans les enseignements disciplinaires pour faire en sorte que quand on fait un cours de biologie moléculaire ou de physique de l'énergie ou je ne sais quoi, on passe un peu plus de temps pour expliciter les liens entre ce qu'on enseigne, quelque chose de spécialisé finalement, et donc les liens avec la question de la transition écologique. Ça peut se faire par des exercices différents, des choses comme ça, quoi. Pas forcément que du cours, mais c'est d'expliciter ces liens-là. Donc ça, c'est vraiment les deux recommandations pédagogiques, on va dire. Puis après, il y avait des recommandations plus générales sur le fait qu'à partir de maintenant, ça doit être une politique d'établissement. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir quelques enseignants dans un coin qui se battent pour monter ces enseignements. Ça doit être une politique d'établissement. Et donc, on peut prévoir une progression, c'est ce que demandent les étudiants, une progression de formation. Hein. Donc au-delà du socle, on peut imaginer que dans les masters, on développe ces aspects-là. Pourquoi pas monter de nouveaux masters sur la transition? Il y a un besoin aussi, il y a une demande là-dessus. Mais la principale recommandation, c'était de faire en sorte que tout le monde ait un socle, un bagage minimal. Et ça, finalement, ça a été suivi par le ministère.
Et alors, comme tu le disais, il ne s'agit pas donc d'une petite sensibilisation de quelques heures. Là, c'est vraiment des cours avec de la substance, donc l'équivalent de 3 crédits. Comment concrètement ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des professeurs de transition écologique? Est-ce que c'est les professeurs d'autres matières qui vont devoir se former ou travailler ensemble? Concrètement, ça ressemble à quoi?
Alors, comment ça va se faire, ça, je n'ai presque envie de dire, c'est ce qu'on va voir, si j'ose dire. Parce que évidemment, dans ce rapport, on a été très soucieux de respecter deux principes. Ils sont d'une part l'autonomie des établissements et d'autre part la liberté pédagogique des enseignants. Donc on a refusé de délivrer une espèce de programme sur les contenus. Par contre, on a essayé d'être clair sur les orientations de ce contenu. Il y a deux composantes majeures. Il y a ce qu'on pourrait appeler les connaissances. Ça, c'est quelque chose qui est facile, si j'ose dire, à mettre en œuvre, en théorie, dans un établissement d'enseignement, puisque les enseignants délivrent des connaissances. Alors, des connaissances en quoi? Évidemment, sur les bases scientifiques qui permettent de comprendre les enjeux de la transition, donc c'est-à-dire avoir un minimum de compréhension du système climatique, de la question des ressources, de la question de la biodiversité, ce genre de choses. Mais, et c'est là que ça se complique, c'est pas une formation au problème d'environnement. C'est une formation à la transition écologique, c'est-à-dire au changement. Donc ça veut dire que, dans l'idéal, il faudrait qu'à côté de ces enseignements de sciences de la nature, quoi, pour aller vite, soient présents, évidemment, des enseignements de sciences humaines et sociales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement un minimum d'informations sur l'économie, sur la sociologie ou la psychologie. Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est important de comprendre ça. Il s'agit de faire en sorte que les futurs citoyens qui vont être chercheurs, qui vont être employés dans une banque, qui vont être employés n'importe où, puissent être armés pour participer dans le cadre qui sera possible, encore une fois, dans le milieu professionnel, donc puissent participer à la transition. Donc c'est vraiment une formation au changement. Donc ça veut dire être au courant de ce qui se passe, voilà, et ensuite d'avoir une idée de ce qui se passe donc, sur le plan économique et compagnie, hein, ça j'insiste là-dessus. Donc il faudrait théoriquement équilibrer les enseignements entre sciences de la nature et sciences de l'homme et de la société, ce qui est pas évident, puisque 3 crédits en moyenne, hein, c'est une trentaine d'heures dans la plupart des établissements. Donc c'est quand même un temps très limité, donc il faut être capable d'aller sur les grandes logiques, les ordres de grandeur, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie connaissance. Donc pluridisciplinaire, c'est indispensable. La deuxième partie, c'est le changement, donc c'est les compétences au changement. Donc ça, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire être compétent pour le changement? Ça veut dire être capable de raisonner peut-être plus de manière systémique. Ça veut dire être capable de faire des compromis, de se projeter dans l'avenir, d'avoir une idée de ce que c'est un scénario. Donc ça, c'est beaucoup plus diffus, si vous voulez. Et donc, pour apprendre ça, c'est à mon avis le défi le plus compliqué pour le monde universitaire. Ouais. En dehors de quelques établissements, c'est pas trop notre spécialité. Donc là, de mon point de vue en tout cas, ça veut dire développer des partenariats avec des acteurs non académiques, pour mettre les étudiants en situation d'action. Il n'y a pas mieux que si on est sur un vrai projet. Alors c'est facile à dire, hein. Beaucoup plus difficile à faire, il y a un effort colossal à faire de construction, d'opportunités, de mise en situation le plus réel possible des étudiants. Donc ça va être un travail de longue haleine, il ne faut pas s'illusionner. Mais voilà, donc il y a deux choses essentielles. Il y a les connaissances de base, qui doivent être sur l'ensemble des disciplines, donc il faut faire des choix là, pédagogiques difficiles. Est-ce qu'on peut comprendre la biodiversité en 2 heures. Est-ce qu'on peut comprendre les grandes théories économiques en 2 heures? C'est un peu ça, hein, la question. Peut-être que la réponse est non, d'ailleurs, mais je pense que c'est jouable. En tout cas, pour la biodiversité, c'est jouable. Voilà, donc c'est ça. Et puis, il y a ces compétences pour passer à l'action.
Alors justement, moi je voudrais revenir sur un élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le rapport, c'est que vous insistez sur 2 choses. D'abord, donc la pluridisciplinarité, et puis l'importance de lier la théorie et la pratique pour que ces formations puissent vraiment aider à porter ce changement de la transition écologique qui n'est pas simple, comme tu nous le disais à l'instant. Moi, à l'époque où j'étais étudiante, donc on avait des cours de sciences sociales ou économie, histoire, etc. à Sciences Po, et des sciences dites dures à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6. Et je dois dire que en fait, on avait beaucoup de cours, et c'est dû à la définition des programmes, aux crédits, etc. Mais nos cours, c'était plus plusieurs disciplines les unes à côté des autres que vraiment des cours interdisciplinaires. Il y avait en fait assez peu d'interdisciplinaires et de temps pour l'interdisciplinaire, et peu de temps aussi finalement pour passer de la théorie à la pratique. Est-ce que ça a réellement changé, et comment on fait, et qui peut enseigner cette interdisciplinarité?
On met le doigt là sur la partie très difficile. Alors, pour revenir sur la question des disciplines, dans beaucoup de formations, en fait, on fait plus du voisinage disciplinaire que de l'interdisciplinaire, ou voire même du transdisciplinaire. Et c'est pour ça que je reviens à cette histoire de développement de partenariats non académiques. Quand on décide, un peu dans le vide comme ça, de faire du pluridisciplinaire, c'est un truc qui est artificiel, qui est imposé et qui fonctionne finalement assez mal. Je pense que ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le pluridisciplinaire, et donc l'analyse plurielle d'un objet commun, c'est ça en fait réellement le pluridisciplinaire, devienne quelque chose de naturel. Et donc c'est là que former les gens à partir de situations concrètes du monde réel, c'est très important. Quand on a à agir sur le monde réel il est pluriel. Donc du coup la pluridisciplinarité, voire plus, devient quelque chose de naturel, d'automatique, et devient formateur en quelque sorte. Donc moi je crois que pour former à l'interdisciplinarité, la seule solution, c'est de travailler sur des enjeux concrets. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire que dans ces enseignements de transition, il faudrait développer, plus qu'on le fait aujourd'hui, l'approche projet. Ça, c'est très difficile parce que ça prend du temps. Ce n'est pas forcément compatible avec les emplois du temps tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'on privilégie quand même l'enseignement théorique à l'enseignement pratique. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Alors, on le fait aussi pour une raison simple, c'est que ça coûte moins cher. Faire un cours dans un amphi de 150, ce n'est pas très cher par rapport à suivre un groupe de 5 ou 6 étudiants qui vont travailler sur un truc concret. Donc, il y a derrière quand même un problème de style de formation et de moyens. Mais pour moi, la seule manière de faire, c'est de travailler sur des enjeux réels. Et les enjeux réels, ils peuvent être dans le contexte, d'ailleurs, de l'établissement d'enseignement. Il y a plein de trucs à faire aujourd'hui. Sur la cantine, sur les réseaux d'énergie, de transport, enfin, tout ce qu'on voudra. Il y a plein de groupes, d'ailleurs, dans les établissements qui font ça, des groupes d'étudiants. Les étudiants sont souvent largement aussi en avance, pour ne pas dire plus, que les enseignants sur ces questions.
Oui, parce que de toute façon, c'est vrai que dès qu'on est dans le concret, on est de fait forcé de faire très rapidement de l'interdisciplinarité. C'est vrai que je me souviens, peut-être le seul cours où on faisait ça, c'est celui avec Bruno Latour, où il nous faisait partir d'un objet, d'un problème ou d'une controverse, et où on se lançait après dans des tas de discussions, de cartographies, enfin d'approches qui lui étaient propres, mais qui nous permettaient, en fait, c'est vrai, par la force des choses, de faire de l'interdisciplinarité. Je tiens à lui rendre hommage, d'ailleurs, puisqu'il nous a quittés, mais c'était effectivement des cours très intéressants.
Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. On a trop fait l'interdisciplinaire, on l'a vécu trop dans la recherche, ça a été caricatural de mon point de vue à un moment donné. C'est une injonction, quoi. N'importe quel projet devait être pluridisciplinaire. Ouais, pluridisciplinarité n'a pas de raison d'être. Donc moi, je crois beaucoup que ça doit être fait. Alors après, est-ce que ça a beaucoup progressé dans les établissements? Oui, il y a des petits progrès, mais ça progresse lentement, très très lentement. On reste quand même essentiellement sur des formations disciplinaires qui communiquent très peu. Les enseignants, surtout en ce moment, ils sont tous à 120, 130, 140% de leur temps d'enseignement, ils se concertent pas suffisamment. Donc il y a un problème, il faut pas se cacher la vérité. D'ailleurs, ce mouvement-là qui est vraiment profond, qui s'accélère, tu l'as dit en début, en introduction, il y a quand même des difficultés matérielles très très fortes. Ça manque de moyens. Il faut du temps, il y a la question de la formation. Beaucoup d'enseignants disent, moi tout ça, ça me passionne, je suis prêt à y aller, mais je me sens pas formé. Donc il y a la question de la formation des enseignants.
Oui, alors en effet, ça c'est un sujet difficile. Un autre sujet difficile, on l'a vu dans de nombreux épisodes, c'est que la transition écologique, elle implique des changements très profonds dans l'ensemble des secteurs. Et du coup, dans le supérieur, est-ce que ça peut pas aussi remettre en cause des enseignements traditionnels, c'est-à-dire pas seulement devoir rajouter quelques éléments sur la transition écologique, mais en fait remettre profondément en cause la façon dont les enseignements sont faits, alors, par exemple en économie ou en agriculture,
ou parfois dans certaines filières. Peut-être s'il n'y a pas des secteurs ou des formations pour certains métiers qui vont être amenés à radicalement limiter leurs émissions à terme et du coup peut-être à disparaître avec cette transition écologique. Comment est-ce que vous avez répondu à cet enjeu-là?
Alors, dans le rapport Jouzel, on n'a pas explicitement abordé cette question-là. Tout simplement parce que on n'a pas cherché à définir, autrement que par quelques orientations très générales, à définir ce que seraient les bons contenus et les mauvais contenus. Alors là-dessus, on s'est bien gardé de faire ça. Alors, il y avait plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que, encore une fois, on respecte les principes d'autonomie, etc. La deuxième raison, c'est que on était tous convaincus que la transition écologique, c'est une perspective, c'est un objectif, et qu'il y a 36 000 manières de faire une transition écologique. Donc, il est hors de question de dire tout de suite « c'est ça la bonne voie, c'est celle-là la mauvaise ». Et puis, le dernier point, qui était peut-être un point plus politique, c'était qu'il y avait un risque aussi, quand on dit « il faut enseigner la transition écologique », qu'on ait une levée de bouclier en disant « qu'est-ce que c'est que ça ? C'est idéologique ?» Voilà. Donc, il ne s'agissait pas de laisser penser qu'on était en train de monter une espèce de catéchisme sur la transition écologique. Donc, là-dessus, on n'est pas allé très loin, on n'a pas dit grand-chose. Après, je ne suis pas trop inquiet parce que je pense que, justement, avec la montée en puissance de ces questions-là, la montée en puissance de la conscience étudiante là-dessus, c'est une minorité, mais c'est une minorité forte, quand même. Si ça ne se passe pas comme ça, les enseignants vont avoir des problèmes en direct. Je pense que les étudiants vont faire le tri. Ils vont faire la régulation. D'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui. On a des remontées. Moi, j'ai connu ça, des étudiants qui me disent « Ah ben oui, mais dans les formations que vous avez pilotées, j'ai entendu des climato-sceptiques. » Ça existe aussi, non ? Donc, mais ça, les étudiants, ils le repèrent. Ils sont capables de le mettre à sa place et éventuellement de jouer des mécanismes de régulation. Et je pense que c'est un grand enjeu, ça. Si on n'est pas capable de faire ça dans les établissements d'enseignement supérieur, de faire ça correctement, et donc éventuellement de modifier un peu le discours qui est parfois idéologique derrière les formations, les étudiants réagiront et voire ils iront voir ailleurs. Hein. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Je pense que les enseignements ringards, en gros, comme les entreprises ringardes, d'ailleurs, verront se détourner les talents. C'est là que la régulation se fera.
Alors, on approche de la fin de cet entretien. J'ai encore quelques petites questions. Vous avez remis le rapport en 2020. On est maintenant en 2024. Est-ce que c'est déjà possible de faire un bilan? En particulier, sur la recommandation dont on a parlé, d'avoir 100% des étudiants sortant de l'enseignement supérieur en formation initiale. On a dit donc Bac plus 2, qui a été formé aux enjeux, voies et moyens de la transition écologique. On en est où? Est-ce que ça a été suivi et mis en œuvre?
Alors, donc, fait non, en bonne voie, oui. Et pourquoi? Parce que donc la ministre, donc la suivante, c'est-à-dire Sylvia Retailleau, qui a bien repris le dossier, vraiment bien, a décidé, et c'était pas complètement évident sur le plan politique, je pense, elle a décidé qu'à partir de la rentrée 2025, cette recommandation de 3 crédits sur un socle de formation pour tous les étudiants, c'est une obligation. Donc, normalement, à partir de la rentrée 2025, tous les étudiants auront accès, devront avoir accès à cette formation minimale. Alors, ça ne veut pas dire après que l'ensemble de l'enseignement aura été révisé, que d'autres possibilités seront ouvertes, mais en tout cas, ce socle, normalement, sera obligatoire, est obligatoire, a été déclaré comme obligatoire à partir de la rentrée 2025. Donc, le résultat des cours, c'est que dans tous les établissements, il y a peut-être quelques exceptions, mais elles doivent être extrêmement rares, les enseignants se sont organisés, ils ont monté des groupes de travail pour concevoir le contenu de ces modules, de ce module obligatoire sur la transition écologique. Donc oui, là, je pense qu'il y a un mouvement qui est vraiment bien enclenché. Alors après, il y a beaucoup de critiques à faire, sans doute, on verra dans le détail, mais sur les contenus qui vont peut-être être trop sciences humaines d'un côté ou trop sciences de la nature de l'autre. Il y a des problèmes de... Bon, on n'a pas toutes les compétences dans tous les établissements, il faudrait donc faire circuler les compétences, et ça, c'est compliqué. Voilà, il va y avoir plein de difficultés de ce genre, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce socle est en train de devenir une réalité. Ça sera imparfait, mais c'est un mouvement là qui est enclenché et qui est, me semble-t-il, c'est une vraie bascule là qui est enclenchée. Donc là-dessus, je pense qu'on peut être assez optimiste avec les remarques qu'on a faites avant, des enseignants qui ont besoin d'être formés. Donc pour l'instant, le ministère n'est pas encore sorti, mais il y a un groupe de travail là-dessus qui devrait rendre ses conclusions maintenant, là, en mai ou juin, son plan pour accélérer la formation des enseignants à la transition. Donc voilà, c'est en train de se faire. C'est un peu chaotique, c'est vrai. C'est toujours plus long que ce qu'on espère. Ouais. Moi, je trouve ça assez fou parce que quand on travaillait dans le groupe Jouzel, il y avait aussi une option, enfin une possibilité, et on s'est un peu méfié de ça. Comme quoi, un tas de gens disent « mais non, on n'est pas prêt, on ne va pas le faire », etc. Et finalement, c'est passé assez bien. Je pense que les étudiants avaient bien préparé le terrain, parce que La demande étudiante, elle était là depuis longtemps, elle était formulée, elle était structurée. Mais finalement, ce rapport Jouzel, il a marché parce que je pense qu'il est arrivé au bon moment, juste au bon moment. Il y a un rapport avec un tampon au ministère. Et donc, tous les gens qui étaient à l'œuvre dans les établissements, des individus ou des petits groupes, qui étaient un peu des résistants, quoi, on va dire ça comme ça, ils ont été légitimés.
Ouais, ils ont
ça, voilà. Et du coup, ça a accéléré énormément le mouvement.
Oui, ça fait écho au défi dont on discutait avec Sylvestre et Gilles tout à l'heure. Et votre groupe de travail, pour prolonger un petit peu l'effort, alors bien sûr, il s'intéressait surtout aux supérieurs, puis c'était ça son mandat, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à l'avant en particulier, entre guillemets, pour ne pas louper celles et ceux qui ne feraient pas d'études supérieures? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir un espèce de socle commun de connaissances sur la transition écologique au niveau lycée ou peut-être même collège?
Alors, d'après ce qu'on a vu, puisqu'on avait quelqu'un de l'éducation nationale dans le groupe Jouzel, qui avait travaillé sur les programmes, plus d'un d'ailleurs, sur les lycéens, il existe aujourd'hui, pour ceux qui font le choix des sciences, il y a un programme qui aborde notamment de façon assez pointue la question du climat et de la biodiversité, qui est bien fait. Donc ça existe, mais tous les élèves n'y ont pas accès. En particulier, l'enseignement technique, pour l'instant, n'y a pas accès. Donc là aussi, c'est un processus qui est en cours, qui m'a l'air peut-être un petit peu en panne, c'est-à-dire que comment on généralise ça à tous les élèves, ça reste un enjeu, mais qualitativement, on sait ce qu'il faut faire. Le support existe, les programmes existent et ont été évalués comme étant tout à fait pertinents par rapport aux enjeux. Donc, une partie du boulot, on va dire ça comme ça, a été faite sur le secondaire, mais je pense qu'il y a encore un essai à transformer, notamment vraiment de se préoccuper des élèves qui sont dans l'enseignement plus technique. D'accord. Le deuxième point qui n'est pas utilisé, qui pourtant est dans la loi, et qui pourrait justement compléter la partie connaissance par une partie formation à l'action, c'est les fameux éco-délégués. Il y a aujourd'hui dans les établissements, dans chaque classe, il y a un garçon et une fille qui sont élus en tant qu'éco-délégués et qui sont censés monter des projets, pousser leur administration à faire des trucs en faveur de la transition, etc. Donc, il y a quelques établissements où ça marche, quelques-uns où ça marche beaucoup moins bien. Il y a un problème de dialogue entre les éco-délégués et les chefs d'établissement, par exemple. Mais ça, il me semble que c'est un outil dont il faut qu'on s'empare. Quand je dis « on », ça peut être aussi les scientifiques qui peuvent collaborer avec des établissements d'enseignement. Parce que ça, c'est la possibilité de s'initier à l'action et de changer concrètement l'environnement du lycée ou du collège sur cette affaire. Donc, il y a des programmes à généraliser et il y a un outil éco-délégué dont il faut s'emparer. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment avec cet outil qui est vraiment une très, très bonne idée. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une très bonne idée.
Oui, je crois qu'on avait parlé justement avec des éco-délégués quand on avait fait un épisode questions-réponses avec le lycée Blaise Pascal à Orsay. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y a d'autres établissements ou d'autres professeurs ou d'autres élèves qui nous écoutent, qui sont intéressés pour nous envoyer des questions et faire des épisodes questions-réponses, on reprendra ça avec plaisir à l'occasion. Mais pour terminer l'entretien, je voudrais qu'on regarde de l'autre côté maintenant, c'est-à-dire après le supérieur. Dans le rapport, vous parlez de l'importance de la formation continue. Alors, on a un peu parlé de la formation continue dans l'administration publique d'État, pour les journalistes, mais comment on fait pour l'ensemble des salariés? Comment est-ce qu'on va au-delà d'une formation courte, au-delà de la sensibilisation de quelques heures, souvent d'ailleurs sur le temps libre? Enfin, c'est plus compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus ou est-ce que tu as des idées concrètes de ce qui pourrait être fait?
Alors, pour la formation des agents publics de l'État, donc c'est parti. La première étape était la formation des cadres supérieurs. Ça, c'est en cours. Alors, on avait annoncé une formation de 25 000 personnes sur une année, etc. Je pense qu'on n'atteindra pas du tout les 25 000, hein, mais on en fera au bas mot la moitié. Alors, parce qu'il y a un tas de problèmes, là aussi, logistiques, de disponibilité en temps, mais c'est parti, et c'est une formation de 28 heures, qui commence par de l'initiation, qui comprend des conférences scientifiques, il y a une dimension scientifique très forte dans ces formations, et puis après, il y a des exercices de visite de terrain ou des exercices de passage à l'action. Donc, c'est 28 heures, ça peut paraître beaucoup quand on a un emploi du temps débordé, ça peut paraître faible, mais c'est en train de se faire, là aussi, avec des imperfections. Actuellement, on prépare, il y a une préparation, les questions sont posées, comment on passe à l'échelle des 2,5 millions d'agents d'État. Donc ça devrait démarrer en 2025 jusqu'en 2027. Et après, il devrait y avoir une étape bon, plus lointaine, donc on va voir si ça se confirme, mais sur les agents territoriaux. Donc il y a un boulot qui est en train d'être fait, là aussi, un petit peu de base sur ceux qui ont les manettes en ce moment, c'est-à-dire les agents publics. Donc là aussi, c'est un peu comme ce qui se fait dans le supérieur, ça se fait dans une certaine précipitation, un certain désordre, mais ça se fait, c'est nouveau. Et là aussi, sur un État centralisé comme la France, pour autant qu'on sache pour l'instant, bah, c'est la première fois que ça se fait d'avoir un plan de formation de l'ensemble des fonctionnaires. Donc ça, je pense qu'il faut le remarquer. Le point qui reste un petit peu lointain pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est la question de la formation en entreprise. Alors là aussi, il y a plein d'initiatives, hein. Il y a plein d'entreprises qui se montent, etc., pour former la transition dans les entreprises. Je regrette, et pourtant on l'avait lourdement assisté dans le rapport Jouzel, hein, je trouve que les établissements d'enseignement supérieur ne se saisissent pas suffisamment de cet enjeu de la formation continue, en dehors du cadre public, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est dommage parce que c'est une occasion de légitimation sociale de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est absolument majeure. Et puis c'est même éventuellement un moyen pour récupérer de l'argent, ce qui n'est pas complètement négligeable. Donc voilà. Mais finalement, les seuls qui ne sont pas formés pour l'instant, c'est les citoyens, en quelque sorte. Enfin, le citoyen en tant que citoyen, soit il a la chance d'être fonctionnaire, soit il est dans une entreprise où il y a un effort qui est fait. Mais sinon, il est pas mis dans le coup. Donc là, il y a un point faible, à mon avis. On peut peut-être corriger en ayant revoyant un petit peu les modalités de fonctionnement de nos syndicats, de nos associations, qui devraient être les corps intermédiaires, ils pourraient faire ce travail auprès du citoyen lambda, quoi, en quelque sorte. Voilà.
Eh bien, tout un programme. Il faudra qu'on en reparle dans de prochains épisodes. Merci beaucoup, en tout cas, Lucas Badi, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous faire des partages d'expériences. Si vous avez des questions, des réactions sur comment ça s'est fait chez vous, dans vos universités, la mise en place de ces formations. Et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Sétifié et Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter par email, leclimat en question avec un S, @ecomail.fr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.